et bienvenue dans Carrefour Sciences et Santé. Cette semaine, Carrefour s'éloigne du corps humain et s'intéresse à ce que l'homme peut créer grâce à son cerveau, les nouvelles technologies. Comment ont-elles changé notre quotidien? Quelles sont les conséquences sur l'être humain? Y a-t-il des risques? Toute une série d'interrogations et des réactions d'experts.
On a déjà au quotidien dans nos vies des algorithmes comme ceux de Facebook, comme ceux de Google qui sont des robots et qui ont déjà changé nos vies.
Nous parlerons robots, réalité virtuelle et transhumanisme. C'est dans quelques instants dans Carrefour Sciences et Santé avec Maëlys Segal sur VOA Afrique. Dimanche dernier, à Barcelone, en Espagne, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a fait sensation en montant sur scène lors de la présentation du Galaxy S7 de Samsung. Alors que les invités de cette conférence portaient des casques de réalité virtuelle, il a traversé la foule sans que personne ne le voie et est apparu tel le Messie sur scène. Personne ne s'attendait de sa venue. Il a notamment expliqué comment Facebook ambitionne de se lancer dans la réalité virtuelle. Le monde de la technologie, j'ai nommé Facebook, Google, Samsung, Microsoft et tous les autres, sont d'accord pour dire que dans les mois à venir, la réalité virtuelle fera partie de notre quotidien. Mais qu'est-ce que c'est exactement la réalité virtuelle? Jean Segura était là à ses débuts.
La première fois que moi j'ai essayé un dispositif complet, hein, c'était en 1989. Je dirais que les gens qui ont inventé la réalité virtuelle, c'est une dizaine de personnes, on va dire, hein, de façon indépendante ou en travaillant en réseau. Hein. C'est parce qu'ils cherchaient à faire des choses qu'ils ont inventé la réalité virtuelle et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il y en a, c'était des chimistes qui voulaient manipuler des modèles moléculaires. Les gens de la NASA, eux, ils voulaient voir comment faire travailler des robots à distance. Donc la réalité virtuelle servait à imaginer des tâches qu'on pourrait faire exécuter par des robots. Mais il fallait pouvoir piloter ces robots à distance avec des dispositifs virtuels. C'est-à-dire donner l'impression à un astronaute qu'il est sur la planète ou dans l'espace et qu'il va pouvoir manipuler lui-même les outils ou pour l'exécution des tâches pour lesquelles il a été missionné. On ne se rend pas compte aujourd'hui parce que ce sont des outils tellement familiers, mais par exemple les menus déroulants sur un ordinateur ou l'utilisation de la souris avec un curseur qui se balade sur votre écran, tout ça sont en fait des interfaces qui permettent de rentrer dans une machine informatique, mais avec des gestes naturels. Les menus déroulants, ça sert à regarder ce qu'il y a. Et la souris, c'est un avatar de la main qui sert à se balader sur l'écran et à pointer des choses qui nous intéressent. Les techniques de réalité virtuelle, c'est un petit peu une extension de ça, sauf qu'on les a rapprochées du corps. C'est-à-dire que ce qui était sur l'écran, bah, c'est devenu maintenant, c'est devant les yeux. Et c'est si possible en relief. Et ce qui était la main, bah, c'est le corps entier. Et qui investit donc des environnements, ce qu'on appelle maintenant des environnements virtuels, et permettent de se déplacer et d'interagir avec différents objets ou sujets qui sont dans ce monde virtuel.
Si vous pouviez donner une définition de la réalité virtuelle aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait ?
C'est donc de pouvoir donner au corps l'impression de faire partie d'un monde qui ressemble au monde réel, mais qui est entièrement fabriqué à partir d'images tridimensionnelles, et ce, en temps réel. C'est-à-dire que vous êtes dans une représentation, une forme de représentation de la réalité, et sur laquelle vous avez la possibilité d'interagir.
Merci Jean Segura. Écoutez Carrefour Sciences et Santé, au micro Maëlys Segal pour parler des nouvelles technologies. Sans qu'on ne le sache vraiment, la réalité virtuelle est partout dans notre environnement, et depuis longtemps. Il est possible par exemple de simuler une chirurgie pour permettre aux chirurgiens de s'entraîner, la même chose pour la conduite de véhicules et même la conduite aérospatiale. Dans le domaine du nucléaire, la réalité virtuelle a permis le démantèlement d'installations en milieu contaminé. On a aussi la narration virtuelle, la télé-immersion, la météorologie, l'essayage de produits à distance. Bref, la réalité virtuelle se trouve presque partout dans notre entourage, sans que l'on s'en rende vraiment compte. Ce n'est que lorsque la réalité virtuelle est visuelle qu'on la notifie. Prenons l'exemple des jeux vidéo. De plus en plus sont créés pour faire croire aux joueurs qu'il est réellement dans le jeu. Michael Stora est psychologue, psychanalyste et joueur de jeux vidéo. Il a déjà essayé un casque de réalité virtuelle pour jouer à un jeu vidéo et nous explique l'expérience.
Moi-même, j'ai testé ces lunettes. Je crois que maintenant, on est arrivé à une technologie tellement impressionnante qu'il y a quelque chose de bluffant, mais peut-être un petit peu, on en est encore un petit peu comme les premiers spectateurs qui ont vu le train de la Ciotat rentrer, réalisé par les fers lumière. C'est-à-dire qu'on est encore un peu dans une dimension un peu gadget. On n'est pas encore totalement. Et c'est vrai qu'on peut être un peu effrayé de voir des êtres humains tous avec des casques à réalité virtuelle augmentée qui n'auront même plus de place pour, pour s'embrasser, pour se regarder réellement.
Oui, voilà, justement, quels sont les risques? Est-ce qu'il est possible d'être dépendant complètement à cette autre vie que l'on crée dans un jeu vidéo?
Alors, on va dire que si on reprend les fantasmes un petit peu précurseurs et peut-être même annonciateurs d'auteurs comme Philippe K. Dick, qui a beaucoup travaillé, qui lui-même était une personnalité addictive et qui a pensé qu'en effet, le virtuel pourrait, à un moment ou à un autre, devenir une sorte d'opium du peuple, quelque chose qui ferait qu'au lieu d'affronter la réalité de leur corps, d'affronter l'autre réellement, certains choisiront de rester uniquement dans des univers virtuels. En fin de compte, le sentiment d'immersion que l'on a dans un jeu vidéo est déjà très puissant en soi, même lorsque je joue à Candy Crush sur mon téléphone portable. Je suis moi-même un bonbon qui disparaît et qui efface de la gélatine. Les jeux vidéo sur télévision, et d'autant plus s'ils sont grands, va évidemment amplifier ce sentiment d'immersion. Et donc avec les casques de réalité virtuelle, il est évident qu'on va beaucoup plus loin, mais tout en sachant que, on va dire que finalement, on reste toujours dans cette idée d'être un avatar. C'est-à-dire que les processus d'identification sont déjà tellement puissants dans le jeu vidéo que la possibilité d'avoir un casque va tout simplement amplifier ce phénomène-là. Et ça peut en effet inquiéter certains. On observe déjà cette sorte de désir d'idéalisation, d'idéal d'être un héros, un sentiment d'immersion profond avec ces nouvelles lunettes pourrait amplifier l'incarnation d'avatar et peut-être avec plus de puissance, je dirais quelque chose de l'ordre de pouvoir faire comme si.
Un autre psychologue rejoint l'avis de Michael Stora. Il s'agit de Yann Leroux. Il est né à Dakar et a déménagé par la suite en France pour ses études. Il est aujourd'hui psychologue et il utilise les jeux vidéo pour faire des psychothérapies. Comme Michael Stora, il n'est pas persuadé qu'une immersion totale dans un jeu vidéo soit une bonne chose.
Ce qui reste vraiment à expérimenter, c'est de savoir si les joueurs de jeux vidéo ont véritablement envie d'être immergés à 100% dans le jeu. Quand on regarde les enfants jouer avec un jeu de Lego ou un joueur de jeux vidéo jouer avec son jeu préféré, il est immergé dans le jeu, oui, mais il a un pied qui reste encore dans la réalité. C'est vraiment ça qu'il faut prendre le temps de voir, parce que quand quelqu'un joue, il est à la fois ici et pas ici. Il est dans un espace qui est un espace de transition entre le monde des rêves et le monde de la réalité. Ceux qui veulent faire des jeux avec la réalité virtuelle veulent faire une immersion tellement puissante que finalement on n'est plus dans cet espace de transition. C'est pour ça que moi je suis assez sceptique sur le succès de ces jeux, parce que je pense que le plaisir du jeu c'est d'être dans un entre-deux et c'est pas être dans un autre monde. Pour ça on a les rêves déjà, ça suffit.
C'était le psychologue Yann Leroux. Vous êtes dans Carrefour, Science et Santé, Maëlys Segal, votre compagnie. La technologie est parfois vue comme un moyen d'être plus fort. C'est le cas des transhumanistes. Le transhumanisme est un mouvement intellectuel qui prône l'utilisation des nouvelles technologies, des sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Les transhumanistes estiment que les faiblesses humaines, telles que le handicap, la maladie, le vieillissement ou la mort, sont indésirables et que les sciences peuvent les éradiquer. Les transhumanistes prônent à long terme la possibilité de la longévité humaine grâce aux nouvelles technologies. Mais qui de mieux que Didier Corneuil, porte-parole de l'association française transhumaniste Technoprog, pour en parler ?
Très simplement, le transhumanisme, c'est le souhait d'utiliser les progrès technologiques pour permettre d'améliorer l'être humain, pour lui permettre de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, et aussi, mais ça c'est dans un avenir plus long, de pouvoir être meilleur, de pouvoir être plus attentif aux autres, de pouvoir être plus résilient.
Comment le transhumanisme se manifeste au quotidien ?
En fait, on pourrait dire que nous sommes tous transhumanistes dans la mesure où nous souhaitons les progrès médicaux qui nous permettent déjà de vivre beaucoup plus longtemps que jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Mais il n'y a pas de comportement spécifique pour la majorité des membres de notre association. Donc nous sommes des citoyens comme les autres, mais souhaitant des progrès qui permettront donc une amélioration. Et cette amélioration la plus importante, c'est une vie en bonne santé beaucoup plus longue.
Donc le transhumanisme, c'est une espèce de courant philosophique ?
On peut dire ça, oui, un courant philosophique qui considère que dans le mot transhumanisme, il y a d'abord le mot humanisme. Donc c'est perfectionner ce qui fait, améliorer ce qui fait de nous des êtres humains, avec les moyens qu'on utilise déjà tous, l'éducation, la philosophie, mais aussi avec des moyens techniques. Et d'ailleurs, les moyens techniques, on les utilise aussi déjà aujourd'hui, mais on peut en imaginer plus encore. Donc si vous faites vacciner, encore une fois, c'est déjà changer un petit peu nous-mêmes. Et on peut imaginer, dans un futur peut-être pas si lointain, que les progrès de la médecine, les progrès de la recherche permettront de ne plus mourir de maladies du vieillissement. C'est grâce aux nouvelles technologies que nous pouvons envisager des progrès. Et donc, parmi les nouvelles technologies, il y a bien sûr tout ce qui concerne l'informatique, il y a tout ce qui concerne la meilleure perception du vivant, donc notamment autour des thérapies géniques. Et puis, il y a également les recherches pour un monde plus durable. Ça, c'est, je dirais, dans une appréciation globale positive des progrès technologiques. Donc, outre ce qui permet vraiment l'amélioration de l'humain, il y a l'automatisation, la robotisation qui permet d'envisager de diminuer considérablement le travail et particulièrement toutes les tâches ennuyeuses et donc qui permet d'envisager un jour de pouvoir ne plus devoir effectuer que des tâches qui sont réellement des tâches enrichissantes.
Merci Didier Corneuil. Ne plus qu'effectuer des tâches enrichissantes, ça paraît être un bel avenir. Et qui se chargera des tâches ingrates ? Les robots par exemple, ou ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Erwan Gaucher, en charge du développement numérique chez France Bleu à Radio France, nous explique ce qu'il entend par intelligence artificielle. Il nous apprend également ce que sont les robots journalistes.
Ma définition d'intelligence artificielle serait la capacité d'un automatisme et notamment d'un algorithme dans le domaine qui m'intéresse à réaliser des tâches de façon intelligente. Et l'avenir, peut-être, en tout cas, de ce qui commence à se profiler de l'intelligence artificielle dans le domaine particulier des nouvelles technologies de l'information, serait la capacité de ces algorithmes à apprendre au fur et à mesure et à corriger, optimiser et améliorer leur fonctionnement en fonction de ce qu'ils apprennent. On trouve aujourd'hui, par exemple, des robots, ce qu'on appelle des robots journalistes. Le terme est un peu faux parce qu'en fait, ce ne sont pas vraiment des robots et ce ne sont pas du tout des journalistes. Mais ce qu'on met derrière ce terme de robots journalistes, ce sont des systèmes qui vont rédiger automatiquement des textes donnant des informations. Je m'explique et je présente ça très simplement. Vous avez, par exemple, un journal comme le Los Angeles Times qui a branché, entre guillemets, des algorithmes ensemble entre les algorithmes qui relèvent les séismes qui ont lieu sur la côte ouest des États-Unis, dans la région de Los Angeles, il y en a beaucoup, et qui vont, donc les robots de ce journal vont aller chercher automatiquement ces données qui sont enregistrées, bien entendu, par des machines et des algorithmes, et vont générer automatiquement des articles décrivant factuellement ce qui s'est passé. Ce que ça donne, c'est que lorsqu'un tremblement de terre, petit séisme, a lieu du côté de Los Angeles, le robot qui les détecte les analyse et cela pré-rédige un article sur le site du Los Angeles Times sur lequel vous allez lire que cette nuit à 2h32 du matin, un séisme de magnitude 3,2 sur l'échelle de Richter s'est produit. Son épicentre était à 32 km au nord de Los Angeles et ça vous permet d'avoir une description factuelle intelligible, c'est-à-dire que c'est vraiment rédigé dans un langage humain tout à fait compréhensible et intéressant, qui va être automatiquement fait. Donc ça donne une capacité de réactivité à l'information et de précision qui est très très bonne, et puis ça permet au journaliste, le vrai journaliste, l'humain lui, de pouvoir se concentrer sur ce sur quoi il a une valeur ajoutée. Ça va être quels ont été les dégâts, les conséquences, quels ont été les gens à faire témoigner, à interviewer sur ce qu'a donné ce séisme, etc.
Mais est-ce que ces robots sont fiables, vraiment ?
Ça n'est fiable que parce qu'il y a un très gros travail préalable fait. Donc en fait, les algorithmes, les systèmes de robots journalistes, comme on les appelle, ne permettent pas forcément une énorme économie de temps. Ils permettent de traiter beaucoup de choses en très peu de temps, à l'instant T. Mais on a investi beaucoup de temps en amont pour préparer ça. Et si les robots ont été fiables dans la rédaction de leurs articles auparavant, ce n'est que parce qu'on a beaucoup travaillé en amont sur la composition de ces textes. On a fait des essais, on a corrigé, on a recommencé pendant des mois auparavant.
Des gens ont peur de se voir un jour dépassés peut-être par l'intelligence artificielle. Faut-il avoir peur ?
Il faut en tout cas se poser la question. Ce qui serait dangereux, ce qui pourrait faire peur, c'est qu'on ne se pose absolument pas la question. L'exemple du numérique en général, du web, est un bon exemple parce qu'on est sur quelque chose qui s'approche un peu de l'intelligence artificielle. Je reprends l'exemple de l'algorithme de Google. On parle beaucoup des robots comme des choses de science-fiction qui arriveront dans quelques décennies. Mais on a déjà au quotidien dans nos vies des algorithmes comme ceux de Facebook, comme ceux de Google, qui sont des robots et qui ont déjà changé nos vies. Et on se rend compte qu'on n'a pas toujours été suffisamment attentif à comprendre ce que ça impliquait. Aujourd'hui, posez-vous la simple question de comment se passerait ma vie quotidienne s'il n'y avait plus Google ? Où est-ce que je trouverais tout ce que je trouve sur Google ? Est-ce que je serais capable de mener la même vie au quotidien sans tous les services, et Dieu sait qu'ils ne sont pas que le moteur de recherche, ils sont très nombreux, de Google ? Et on s'aperçoit que derrière ça, on a une question de fond qui est celle de nos données personnelles auxquelles on n'a pas pensé quand on a commencé à utiliser fortement ces algorithmes qui sont des robots. On n'a pas pensé à ce qu'on faisait de ces données que nous donnons à Facebook, à Google, à Apple et que l'on donne beaucoup. On commence à s'en apercevoir un peu tard. Ça, ça pourrait être justement un point d'attention où sans avoir peur, il faut que nous soyons beaucoup plus vite attentifs et encore plus le public, les décideurs et notamment les politiques qui sont très en retard là-dessus. Cette question, par exemple, des données personnelles qui sont aspirées par ces robots que sont les algorithmes de Google ou de Facebook, qui sont aspirées pour une utilisation dont on ne connaît pas aujourd'hui la finalité, on se la pose là depuis un an et demi dans des pays comme la France. Ça fait 5, 6, 10 ans qu'on aurait dû se la poser.
C'était Erwan Gaucher. Ne pas avoir peur de l'intelligence artificielle donc, mais s'en inquiéter et y réfléchir avant d'en subir les conséquences. Et que pensent les transhumanistes de leur côté ? Didier Corneuil nous répond.
La question de l'intelligence artificielle est une question extrêmement importante et pour laquelle les transhumanistes n'ont pas une opinion uniforme. Donc certains, dont je fais partie, sont particulièrement attentifs aux dangers qu'il peut y avoir concernant l'intelligence artificielle et d'autres pensent que les risques sont faibles, mais tous nous nous retrouvons pour dire que les développements de l'intelligence artificielle, c'est une source d'espoir considérable. C'est notamment une source d'espoir et dans le domaine des recherches possibles pour la longévité. Mais pour certains, plus que d'autres, ce sont aussi des risques considérables. Donc encore une fois, moi je considère qu'il y a des risques importants. Et un des fondateurs du transhumanisme, Nick Bostrom, est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Super Intelligence » et qui décrit quels sont les risques qui sont liés à l'intelligence artificielle.
Maëlys Segal au micro, vous écoutez Carrefour Science et Santé. Depuis le début de cette émission, nous parlons de robots, de transhumanisme, d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle. Nous parlons de toutes ces évolutions technologiques, mais à chaque fois, nous avons abordé ces sujets en Europe ou dans les pays occidentaux et jamais en Afrique. Nous n'avons jamais non plus abordé la question de la biotechnologie. Pourtant, le champ disciplinaire de la biotechnologie est proche du transhumanisme puisqu'il s'agit de décrypter le patrimoine génétique d'espèces vivantes afin de le modifier, de le rendre meilleur, plus performant. Nous allons donc retrouver Armand Jafang, transhumaniste camerounais, chercheur en bioéthique, philosophe spécialiste de la technologie et nouvellement auteur d'un livre qui traite des progrès réalisés sur la biotechnologie.
J'ai découvert le transhumanisme forcément via mes travaux de recherche. Donc j'ai découvert que j'étais transhumaniste, même avant d'adhérer au transhumanisme version technoprogressiste ou bien technoprogressisme. Donc, pour le moment, je suis l'un des porte-parole, sinon le porte-parole du transhumanisme au Cameroun et peut-être un peu plus pour généraliser un peu en Afrique francophone, je vous ai dit en Afrique francophone. Donc, j'appartiens à ce courant et je défends plus ou moins au Cameroun les idées transhumanistes. Je voudrais vous dire que hier, la première conférence, l'une des premières conférences officielles donné par une référence intellectuelle au Cameroun, le professeur Ebenezer Njomwele, qui est par ailleurs conseiller à l'UNESCO, nous a fait l'honneur, dans la salle du Centre culturel camerounais, de donner une conférence sur le thème « Le transhumanisme et l'obsession de l'immortalité de l'homme ».
Est-ce que vous pensez que le transhumanisme pourrait permettre à l'Afrique de se développer peut-être plus ?
Depuis 1999, le docteur Guy Sanjon, qui a une clinique ici au Cameroun, qui s'appelle la clinique médicale Odyssée, pratique ce qu'on appelle l'assistance médicale à la procréation. Donc, depuis 1999, on a déjà eu plusieurs naissances. Donc, le premier né des filles au Cameroun a déjà 20 ans. Le transhumanisme est une idéologie qui a une ambition et l'Afrique peut bénéficier des progrès technologiques qui peuvent être encouragés et qui seront encouragés par l'idéologie transhumaniste. Je vais vous prendre un dernier exemple, c'est un exemple qui est plus concret, c'est que le paludisme est l'une des maladies qui touche prioritairement l'Afrique subsaharienne. Et actuellement, la transgénèse ou bien les thérapies géniques nous permettent aujourd'hui de modifier l'anophèle femelle gambia, principale vectrice du paludisme, modifier le parasite qu'on appelle plasmodium et qui donne la maladie du paludisme, si on peut dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, on est capable de donner nos lames dans un laboratoire situé à l'Angleterre, à l'Imperial College de Londres, à développer un protocole qui permettra d'annihiler le gène vecteur de la maladie, en fait. Et puis voilà, c'est quelque chose qui pourrait bénéficier à l'Afrique si, il y a une certaine reconnaissance au niveau de ces travaux-là.
Est-ce que certaines personnes en Afrique voient le transhumanisme comme une espèce de, peut-être, sorcellerie ou quelque chose de mal ?
En Afrique, au Cameroun particulièrement, on a un souci avec les croyances, avec les traditions. On a encore la religion qui a une forte composante dans les populations ici, dont la conscience est beaucoup plus développée. Les gens ont un souci et se disent que voilà, les idées transhumanistes sont un peu vaste en guerre contre Dieu, et voilà, c'est un peu beaucoup plus très, très passionné. Donc, mais je pense que au regard des conséquences qui sont davantage positives, je pense qu'il faille vulgariser l'idéologie transhumaniste en Afrique. Parce que nous allons en bénéficier. Nous sommes le seul continent où la technologie est encore très, très retardataire. Nous avons besoin, pas seulement de transférer des connaissances, des compétences techniques, ou bien des outils. On a besoin de nous approprier les concepts, on a besoin de nous approprier les thèmes, on a besoin de révolutionner même nos universités, parce qu'on a des difficultés à partir de ces institutions-là.
Armand Jafang semble tout de même optimiste. Il se bat pour faire reconnaître le transhumanisme en Afrique. Mardi dernier, le 23 février, a eu lieu à Yaoundé, dans la salle du Centre culturel camerounais, l'une des premières conférences officielles sur le thème du transhumanisme et l'obsession de l'immortalité de l'homme. Une conférence organisée par le Cercle camerounais de philosophie. Armand Jafang y était.
À la conférence, j'ai rencontré un panel de personnes, des gens qui sont vraiment intéressés, qui ont été surpris, même le professeur qui est quand même un grand CV, qui est très intéressant pour moi. Quand je lui ai dit, monsieur, ça fait 2 ans que je suis transhumaniste, et il m'a dit, enfin, on a un transhumaniste au Cameroun. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont un intérêt. Malheureusement, nos politiques universitaires, donc nos politiques liées au ministère de l'enseignement supérieur, ainsi de suite, ne facilite pas l'accès à des nouvelles connaissances. On a besoin d'avoir peut-être des bourses pour pouvoir faire entrer des personnes qui sont intéressées, parce que tôt ou tard, quelle que soit l'issue, nous aurons besoin de nous approprier ces problématiques-là, au-delà de faire des propositions, parce qu'en Afrique, la médecine qui est faite n'est pas forcément biomédicale, elle est peut-être aussi liée à nos valeurs ethnologiques. Culturel. Il y a des codes d'éthique, il y a des morales, il y a des croyances qui sont issues de nos cultures africaines traditionnelles qui peuvent apporter un plus dans ce qu'on peut appeler des décisions éthiques globales. Et je pense que pour pouvoir proposer, il faut quand même connaître. Pour connaître, il faut aussi aller vers où se trouve la connaissance. Et pour le moment, nous n'avons pas ces possibilités-là.
Mais ne vous inquiétez pas, Armand Jafang. Continuez à être confiant et écoutez plutôt ce que l'artiste Roland Topor a dit. Les prouesses réalisées par des individus exceptionnels, grâce à leur art ou à leur intelligence, tôt ou tard, la technologie les rend possibles à tout le monde. C'est sur cette note optimiste que l'on se quitte. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Maëlys Hegel pour Carrefour Sciences et Santé sur VOA Afrique.